Fréquence Mistral.
Alors, bienvenue à tous et à toutes sur Fréquence Mistral. Vous écoutez Corps et Cause, la nouvelle émission qu'on vous a préparée. Moi et Robin, qui va parler d'actualité sportive, qui va parler de sport, on va parler de santé, on va parler des enjeux de société, on va parler d'activité physique, de nutrition, de transformation, de performance, donc tout un programme. Mais aussi, on va parler d'engagement, on va parler de réalité du terrain. Et c'est souvent des questions qu'on n'ose pas toujours poser. L'objectif, c'est de faire discuter des experts entre eux. L'objectif, c'est de décrypter, de clarifier et de donner des repères concrets. Donc chaque mois, nous recevrons 2 à 3 invités issus du terrain pour confronter les points de vue et proposer des solutions applicable. Parce que le corps n'est jamais séparé de la société, n'est-ce pas Robin ? Bonjour à toi.
Bonjour Jean-Alain.
Donc c'est un plaisir de présenter cette émission à deux. Tu as un petit mot d'introduction pour nos auditeurs plutôt qui nous écoutent ?
Oui, pour compléter ce que tu disais, l'idée de l'émission, c'est parler du sport sous toutes ses facettes, sous tous ses angles. J'ai l'impression que la plupart du temps, à la radio, dans des podcasts, même si ça change peut-être avec les podcasts un peu plus diversifiés, souvent c'est le sport professionnel, l'élite, on va dire, alors que c'est bien de parler du sport que tout le monde, tout un chacun fait tous les jours.
Oui, voilà. Donc c'est bien. Alors moi, je ne me suis pas présenté, en fait, c'est la moindre des choses. Donc moi, je suis Jean-Alain, je suis coach sportif, préparateur physique, préparateur mental, et à mes heures perdues, je suis chroniqueur. Et on va faire un petit tour de table pour présenter nos invités aujourd'hui. Bonjour à tous, Véronique.
Bonjour. Et moi, c'est Véronique.
Bonjour,
donc,
Véronique.
Je suis massothérapeute et thérapeute intégrative. Et j'aborde mon travail maintenant, puisqu'avant, ce n'était pas le cas, en régulant le système nerveux avant de faire le travail.
Très bien. Tu vas nous en dire un petit peu plus tout à l'heure. C'est intéressant. Logan, qui est coach sportif, il va se présenter. Bonjour à toi.
Bonjour. Donc, moi, je suis Logan. Je suis préparateur physique pour athlètes de haut niveau, coach sportif aussi. Et vraiment, moi, ce que j'aime dans ce métier, c'est les données. Donc, voilà, travailler avec des athlètes de haut niveau, ça m'a permis de me rapprocher du coup des données et de la science au niveau du sport.
Alors, Robin, tu vas te présenter.
Voilà, donc déjà, ami de Jean-Alain, pratiquant de différents sports. Et là, j'ai la tunique ASPTT, parce que je suis en formation CQP éducateur tennis cette année. Après, j'aime à peu près tous les sports, pratiquant, on va dire, sport de ballon, sport de combat, sport de raquette. Mais là où je suis le plus à l'aise, on va dire, c'est l'équitation, parce que mes parents avaient un centre équestre, et donc on va dire que j'étais sur un cheval avant de marcher, avant de courir.
Très bien. Ça veut dire que tu vas nous apporter ton éclairage sur beaucoup de domaines, beaucoup de sports. Donc, l'objectif de ce podcast, de cette émission, c'est de parler vraiment de l'activité physique en général, de parler de tous les sports. Et justement, les 3 thèmes qu'on a choisis aujourd'hui, Robin et moi, de développer. Le premier, peut-on vraiment perdre du poids ? Donc, c'est la question que je vais poser à nos invités. Peut-on vraiment perdre du poids durablement ? Le sport est-il devenu un business toxique ? Ça, c'est le deuxième thème. Et le troisième, faut-il souffrir pour progresser ? En tout cas, quand on exerce une activité physique. Donc, je demandais à chacun une petite minute d'intervention sur ces 3 thèmes ou sur l'un des thèmes.
D'accord.
Véronique.
Moi, je veux bien commencer concernant la pérennité de la perte de poids.
De poids.
Alors, je dirais que oui, c'est possible, mais on a souvent tendance à confondre motivation et vraiment capacité physique.
Physique, ouais.
Et là, je vais interpeller sur le fait que dans la perte de poids, on oublie l'élément principal qui est le système nerveux. Un système nerveux qui est en mode survie, c'est-à-dire qui est en mode de stress, qui vous dormez pas très bien, vous êtes dans un travail où ça
stressant
vous
prend peut-être,
voilà, ouais, stressant, etc. Ouais. Il est sûr que vos fonctions ne seront pas optimum pour ça. Donc, qu'est-ce qu'il va faire le cerveau ? Il va directement délivrer du cortisol. Et le cortisol, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va stocker. Et donc,
d'accord,
on va stocker de la graisse. Donc, une personne, même si elle mange très bien, même si elle fait tout ce qu'il faut pour maigrir, ouais, pour perdre ce poids, elle aura plus de difficultés à le faire parce qu'il y a l'élément...
motivation qui
C'est même pas l'élément motivation, c'est l'élément terrain, du coup,
d'accord,
qui n'est pas régulé.
Okay.
Et ça peut poser problème.
Très bien. Tu vas nous en dire un peu plus tout à l'heure, mais c'est intéressant. On continue.
Pour moi aussi, une perte de poids durable, c'est tout à fait possible. C'est surtout basé sur la motivation. Donc, les personnes qui n'arrivent pas à atteindre leur objectif, pour moi, c'est juste qu'elles ont un manque de motivation, qu'elles sont peut-être mal préparées à affronter du coup la perte de poids.
D'accord.
Et ouais. Donc pour elle, peut-être le meilleur, ce serait d'être accompagnée, que ce soit par de la famille, des proches ou juste un spécialiste.
Très bien. Et Robin, qu'est-ce que tu en penses, toi, sur la perte de poids? Ben, finalement, c'est le premier thème que tout le monde a retenu. Donc, on va rester là-dessus et on va aborder les autres après. La perte de poids pour toi?
Ben, moi, je vais retenir une idée de mon ami coach, Jean-Alain. Savoir ce qu'on veut, parce que des fois, on veut beaucoup de choses en même temps. C'est pas la même chose de vouloir perdre du poids, vouloir être plus svelte, vouloir être plus athlétique. Donc, ouais. C'est des choses différentes. Moi je dirais il y a le plaisir avant tout, la mobilité.
Bien sûr.
Et ouais. Après la perte de poids, bon, on y reviendra après, mais ouais. C'est vrai que c'est quand même, si on parle de l'obésité par exemple, c'est quelque chose qui touche beaucoup trop de monde.
Bien sûr.
Et, ouais. Et je pense que ça touche à peu près tout le monde, même si on a l'impression de s'en foutre, au fait on a souvent l'envie d'avoir 1 kilo en moins, 2 kilos en moins, ouais. Voire 5, etc. quoi.
Bien sûr. Alors, j'ai préparé une petite chronique là-dessus et je vais vous demander d'intervenir. Donc, c'est la première chronique de notre émission. C'est le décryptage. Donc, sur ce décryptage, c'est une question effectivement que tout le monde se pose, que tout le monde s'est déjà posé dans sa vie. Vous avez sûrement connu des proches qui veulent perdre du poids. Parce qu'entre les régimes miracles, les influenceurs fitness, les applis de calories, les promesses du type ben, « vous perdez 10 kilos en 3 semaines », ben, je pense qu'on peut vite s'y perdre. Alors, on revient à quelque chose de simple. Le corps humain fonctionne globalement avec une règle de base, et je pense que tu seras d'accord avec moi, Véronique, c'est l'équilibre énergétique. Autrement dit, si on consomme plus d'énergie que ce qu'on dépense, on stocke.
Exactement.
D'accord. Et si on dépense un peu plus que ce que l'on consomme plutôt, on perd du poids. Mm-hmm. Là, je pense que tu vas me rejoindre en tant que...
Tout à fait.
Ouais, voilà. Et jusque-là, ça paraît assez logique. Mais dans la réalité, on se rend compte que c'est un peu plus complexe parce que notre corps n'est pas une simple calculatrice. Il y a le métabolisme qui va varier d'une personne à l'autre. Il y a les hormones, il y a le stress, il y a le sommeil, tu l'as dit tout à l'heure, la qualité de l'alimentation et bien sûr l'activité physique. Par exemple, quelqu'un qui dort mal, qui est stressé et qui saute des repas, il aura souvent plus de difficultés à réguler son poids.
Tout à fait.
En plus, il y a une chose qui est importante, c'est que le corps a tendance à s'adapter. Donc quand on fait un régime trop restrictif, ça va ralentir notre métabolisme, pour économiser de l'énergie. Donc résultat, on va perdre du poids au début, mais après, on va stagner. Et c'est souvent ce qu'on constate sur la perte de poids. J'aurais aimé un peu avoir votre avis là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, je suis d'accord avec toi. Et je vais même rajouter que le gros problème dans ces régimes un petit peu miracles, c'est qu'on, encore une fois, on ne prend pas en compte le terrain. On ne prend pas en compte l'environnement de la personne, ce dans quoi elle vit. Comme je prenais l'exemple de la personne qui veut perdre du poids, qui va en salle de sport, mais elle est dans un contexte familial ou travail très toxique.
Ouais.
Le cerveau, bien que peu importe l'application, peu importe le coach ou l'exercice, ne pourra pas réguler ça.
D'accord.
Il y a que le cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va déposer ce cortisol. Donc, il va effectivement y avoir cette incapacité à perdre de poids. Il va y avoir, si par exemple, on commence à dormir, enfin, ça fait 10 semaines qu'on dort que 4 heures par nuit.
Ouais.
La récupération, on sait très bien, justement, en tant que coach, vous savez que c'est dans la récupération que tout
généralement
se
qu'on
fait.
Progresse. C'est quand, voilà. C'est quand on va être exactement. Au repos qu'on aura, par exemple, une dépense calorique.
Exactement.
Ouais. Et je crois même qu'on brûle des lipides. Alors, j'ai plusieurs coachs avec moi, en fait, Logan. On brûle des lipides particulièrement au repos,
tout à fait.
Le soir, par exemple, quand on dort.
Et justement, et donc, si on n'a pas cette capacité, cet environnement qui est idéal pour obtenir son objectif, ça ne peut pas se faire. Même avec toute la meilleure volonté du monde, même avec tous les exercices du monde, même avec tous les meilleurs coachs du monde, si le corps, il n'est pas adapté pour ça, il n'est pas prêt pour ça, on ne peut pas aller à l'encontre de la nature. Alors, notre corps, c'est notre allié. Hein.
Donc toi, tu dis qu'il faut vraiment, que le terrain soit favorable. Il n'y a pas que le régime, il n'y a pas que l'envie d'aller perdre du poids ou d'aller faire du sport. Il y a beaucoup plus. Voilà. Logan, toi, tu en penses quoi sur...
Moi, du coup, je rejoins Véronique sur l'environnement, le contexte dans lequel on fait du coup cette perte de poids.
Mm-hmm.
Mais... j'aimerais aussi ajouter l'aspect des réseaux sociaux où tout le monde vend tout et n'importe quoi, notamment l'arrêt des glucides, que je trouve qui va du coup avoir un effet inverse.
Mm-hmm.
Qu'est-ce qu'on peut rajouter aussi? On peut rajouter pas mal de choses. Le but vraiment quand on commence une perte de poids, c'est pas d'arrêter de se faire plaisir, parce qu'on doit garder le plaisir, on doit pas avoir cette sensation de privation.
Mm-hmm. Exactement.
Alors justement, j'avais une petite phrase là-dessus. Est-ce que tu seras d'accord avec moi si je dis manger suffisamment, mais manger mieux?
Ah oui.
Plutôt que de, par exemple, uniquement de baisser sa ration calorique, mais il faut essayer de manger mieux, ne pas trop se priver.
Ben, on peut garder les mêmes quantités tout en mangeant mieux. Ouais. On peut, quand on est en général en perte de poids, on va peut-être un petit peu réduire les glucides, augmenter le nombre de fibres, augmenter les protéines. Et il y a aussi un ordre dans lequel manger.
Exactement.
Donc on doit remplir d'abord son estomac avec les fibres, ensuite ajouter les protéines. Et si on n'a plus faim, du coup, on ne prend pas les glucides.
D'accord.
Mais voilà, manger mieux, du coup, c'est une des bases pour la perte de poids.
La perte de poids. Robin, ton décryptage là-dessus, toi qui n'es peut-être pas coach sportif, mais tu es dans le domaine sportif.
Bah, j'avais envie quand même de prolonger.
Poser des questions.
C'est très intéressant quand même sur l'ordre. J'ai l'impression que c'est très méconnu, l'ordre de l'alimentation.
Bah, alors moi, je fais aussi du rééquilibrage alimentaire avec la naturopathie. Et c'est vrai que les gens se disent « Bon, moi, je vais manger juste des légumes et je vais manger comme ci, comme ça. » Non, il y a vraiment un ordre. Les glucides ont tendance à se digérer plus vite et se digèrent déjà dans la bouche. Mais aussi, on va avoir un pic, et tout dépend de la qualité du glucide, parce qu'il y a les glucides simples, rapides, complexes. Tout ça aussi va agir sur notre humeur. Mais ça va impacter, donc, comme disait Logan, la première des choses à commencer, c'est les fibres. Les fibres, en général, c'est entre, tout dépend de comment on les consomme, cuit, cru, et de notre métabolisme, ça va être entre 20-30 minutes de digestion. Une protéine, ça peut aller jusqu'à 90-60 minutes à 4 heures de digestion. Donc, pensez bien que si on commence à consommer des aliments qui ne sont pas compatibles, ou en tout cas qui ralentissent la digestion, comme les gras, encore une fois, ça va encore altérer la perte, la prise de poids, la prise de masse, etc.
Ok, très bien.
C'est pour ça que je préférais les faire interagir, parce que c'est une thématique que je trouve très importante.
Intéressante, ouais.
Et en même temps, bah, moi, le petit mot que j'ajouterais, c'est quand même comme quand on veut des résultats et qu'on veut aller trop vite, c'est là que ça complique les choses.
Exactement. Ouais, je pense que c'est ce que je m'étais dit. Effectivement, il y a des gens qui veulent perdre du poids très rapidement. Alors nous, effectivement, les co-sportifs, on va pas leur dire que c'est pas possible, parce que effectivement si on te dit je veux dire brutalement c'est pas possible très rapidement, tu vas te décourager peut-être. Mais on essaie quand même petit à petit d'amener les gens vers l'activité physique, parce que l'important c'est quand même d'avoir une activité physique, et je pense que la perte de poids elle va venir peut-être en deuxième plan. Un petit mot pour boucler cette première chronique. Véronique, si tu as un conseil à donner, puisque l'idée, c'est de donner des conseils aux gens.
Alors, je rebondirai sur ce que Yann a dit concernant les glucides. Pour ceux qui ont peur de consommer des glucides, déjà consommer des glucides plutôt complexes et complets. Et si vous avez peur par rapport à la glycémie, consommer du gras avant, ça va ralentir la digestion des glucides et vous n'aurez pas des pics de glycémie et un coup de pompe
Un coup
après.
De fatigue, ouais,
un
j'ai
coup
connu
de fatigue
ça. Ouais.
Après, ça va aller fibres, gras, glucides, protéines et ensuite ça va quoi. Ou fibres, protéines, ça le fait aussi.
Ben c'est parfait, on te remercie pour ces conseils. Logan, un petit conseil pour les auditeurs.
Moi, du coup, le petit conseil que je peux donner, c'est de, peu importe le niveau d'activité physique, c'est de quand même le mettre dans le quotidien, dans sa semaine, et de commencer à être régulier avec ça pour faire venir l'alimentation avec aussi.
Ok, c'est parfait, on retient ça. Robin.
Bah quand même, je trouve que c'est à chaque fois lié, c'est ne pas abandonner si on n'a pas un résultat rapide. Je dirais que c'est la même chose avec la frappe au tennis, sur plein de choses, sur plein de sports. On a tendance à se dire « Ah, on n'a pas réussi ce coup-là ». En fait, c'est que la régularité qui fait que ça marche.
C'est que la régularité. Si je résume un peu, pour ceux qui nous écoutent, les bases restent assez simples. En fait, c'est manger suffisamment, manger mieux, bouger régulièrement. Mm-hmm. Il faut bouger. Et tu l'as dit beaucoup, Véronique, installer des habitudes qui vont tenir dans la durée.
Exactement.
Donc, j'espère que ça va vous aider. Ça va vous aider, en tout cas, si vous voulez perdre du poids. On va passer donc au deuxième sujet de cette chronique. Et c'est Robin, c'est toi qui vas l'introduire.
Alors, la question qu'on proposait, c'est « Le sport est-il devenu un business ?» Bon, déjà, on peut poser la question de quel sport on parle. Moi, je commencerai en faisant le lien avec, comme on parlait de la perte de poids, on a évoqué un peu la question des réseaux sociaux, de l'apparence. Hein. Il y a la musculation, là, je n'ai pas été voir les chiffres, hein, mais les salles de musculation, les salles de fitness, c'est quand même de plus en plus à la mode depuis quelques années. Alors, j'attire l'attention sur un livre que je trouve intéressant. J'ai partagé un peu avec Jean un livre de Guillaume Vallée. Le titre s'appelle « La fabrique du muscle » aux éditions L'Échappée. Alors, lui, il parle de cette mode de la musculation, on va dire, comme un nouveau stade du capitalisme. Le corps, c'est comme, ça apparaît comme une ressource disponible qu'on peut façonner à l'infini comme on veut, sur lequel on a vraiment tous les pouvoirs, on va dire. Et alors, c'est la découverte de tout un monde où il y a tout, il y a des produits, il y a des coachs, il y a du matériel, il y a beaucoup d'enjeux de consommation. Tout semble à portée de main, et c'est aussi comme une volonté de se protéger, d'être, on va dire, indépendant, on va dire, sans relier ça au collectif.
D'accord, je trouve c'est intéressant. C'est intéressant comme sujet.
Ça pose le débat. Ouais. Après, on pourrait dire le sport business par rapport au foot, par rapport au tennis, où il y a des enjeux qui sont différents aussi, ou même par rapport au rugby. Hein. On entend souvent le rugby comparé au foot, c'est plus sympa, c'est plus convivial. Après, des gens qui s'y connaissent dans le rugby vont dire oui, mais depuis que ça se professionnalise, depuis que l'argent rentre, c'est là qu'on perd un peu le sens du collectif, des valeurs prévues à l'avance dans ce sport, on va dire.
D'accord. Alors moi, la question que j'aurais aimé poser à tous, aux invités, en fait, oui, effectivement, est-ce que le sport est-il devenu un business ou est-ce que le sport doit devenir un business? Parce que d'un côté, ça peut être intéressant. Aujourd'hui, beaucoup plus de gens ont accès au sport. On prend l'exemple d'il y a peut-être une vingtaine d'années, il y avait moins de salles de sport, il y avait peut-être moins de clubs sportifs, il y avait moins de campagnes pour l'activité physique fait par les médias et peut-être des fois engagé par les politiques. Et aujourd'hui, on est d'accord qu'on entend parler de sport de partout et c'est devenu un business. Alors, est-ce que ça doit être un business pour justement être accessible à tous ou est-ce que ça doit être, on va dire, détaché du côté marketing et du côté business? Qu'est-ce que vous en pensez, peut-être Logan
qui a un pied dans le monde
qui a un pied dans, voilà, qui...
Pour moi, il y a des sports qui sont beaucoup trop toxiques au niveau du business. On m'a parlé surtout,
du foot.
Voilà, du foot.
J'en étais sûr.
Montant des transferts, des salaires et tout. Mais pour en revenir du coup aux personnes qui nous écoutent surtout, qui ne sont pas forcément professionnelles ou quoi que ce soit, là où c'est toxique, c'est quand on commence à voir des pubs ou des influenceurs qui nous vendent des produits miracles, des brûle-graisse extra rapides, des thés détox. Un programme de 30 jours pour perdre la graisse du ventre uniquement, c'est des trucs qui n'existent pas. Le marketing, il est beaucoup basé sur le mensonge et sur l'envie que les gens ont du sport, les attentes qu'ils ont.
Alors, j'ai une question, est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas du tout ou est-ce que ça marche un peu? Parce que c'est vrai que là, toi, tu parles de l'exagération, par exemple, de certains influenceurs ou de certaines publicités sur, on a parlé de la perte de poids, par exemple, mais ça, on pourrait prendre la prise de masse, on pourrait prendre aussi avoir plus d'énergie. Prendre des vitamines, etc.
Il y a des trucs qui marchent, mais on va dire que s'ils font la pub, c'est qu'ils prennent quelque chose dessus.
D'accord.
C'est pas forcément conseillé pour eux. Enfin, on fait la pub, mais on n'a pas le dossier médical de la personne.
D'accord.
Pour prendre des compléments, en général, il faut quand même souvent un dossier médical.
Il faut l'avis d'un spécialiste.
Ouais. Il faut une approche complète.
Tout à fait.
C'est ça. Et pas une solution simpliste, quoi.
Ouais. Voilà. Enfin, c'est de la pub qui est vite placée, mais qui est souvent mal placée. Il y a toujours une idée derrière en général, c'est pas forcément d'aider la personne, ça va juste être je prends mon billet sur le produit que j'ai réussi à vendre.
Ouais.
Et derrière, voilà, je te laisse.
Oui, je comprends. Et Véronique, ton avis là-dessus? Est-ce que le sport doit être un business? Est-ce que le sport est devenu un business?
Alors, moi, je suis pas contre que le sport soit un business parce que ça peut être un travail, c'est un travail comme un autre. J'ai pas de souci avec ça. Ce qui me pose problème, c'est qu'on vend de l'illusion et qu'on apporte peu de conscience dans tout ça. Je veux bien un sport business, mais un sport business conscient. Je veux bien un sport business, mais un sport business qui arrête de vendre de l'illusion. Parce que c'est totalement contre-productif, pardon, que ce soit pour la personne qui le vend et pour la personne qui l'utilise. Et en plus, je crois que ça dénature complètement le sens du sport.
D'accord.
Le sport est quand même... encore un de nos alliés pour se maintenir en forme. Et si on commence à discuter, à proposer des solutions
qui ne marchent pas, on va dire,
qui ne fonctionnent pas un peu tout azimut.
Toi, ce que tu veux dire, c'est que les gens, à un moment donné, vont se rendre compte qu'on leur a menti et ils vont se
détourner. Et c'est comme ça que les gens abandonnent, ouais. C'est comme ça que les gens s'arrêtent ou qu'ils ont peur, qu'ils se disent « Bon, ben, je me suis déjà fait avoir une première fois, je vais avoir peur. » Alors que, bon... elle peut, cette personne, même si elle s'est fait avoir une première fois, elle peut très bien tomber sur une personne qui sera totalement, qui saura totalement adapter sa, son activité sportive à qui elle est. Je crois que, ouais, pour moi, c'est, c'est ce que je dirais. Ouais.
Donc, si je résume un peu, en fait, le sport peut être un business, hein, si on résume un peu par rapport à vos différentes interventions, mais il ne faut peut-être pas que ce soit exagéré, il faut que ce soit encadré peut-être par des spécialistes, il faut, que, il faut qu'il y ait une expertise peut-être sur les conseils qu'on va donner aux gens. Mais ma petite réflexion là-dessus, c'est que sur le côté business, c'est-à-dire que on a besoin de finances, par exemple, pour développer une idée. On a besoin, on a toujours besoin de sous, hein, si je dis ça vulgairement, pour investir. Donc, en fait, ce qui est difficile, et peut-être Robin, sur le côté sociétal, c'est toujours difficile de trouver le juste milieu. Qu'est-ce que tu en penses ?
Ouais, ben moi, je dirais, c'est aussi qu'il y a des injonctions, par exemple, gouvernementales. Comme on dit, il faut faire plus de sport. On remarque... C'est intéressant pour revenir sur l'idée initiale de Jean aussi, de Jean-Alain, sur la question de l'obésité. Quand on a la tête dans le guidon, moi personnellement, à fond ici, là, sur la formation éducateur tennis, je suis dans un environnement où il y a peu d'obésité. Mais en même temps, voilà, je suis à la base journaliste, je regarde un peu. Au fait, c'est la semaine, il y avait la journée nationale contre l'obésité. Quand on regarde les chiffres, on le sait, ils sont très... très, très mauvais, on va dire, par rapport à l'obésité. Donc, il y a un besoin de perte de poids au sein de la population en général. Et on voit dans la Provence, hein, le journal local, il disait, il y a le gouvernement qui va promouvoir l'éducation au goût, l'éducation à l'alimentation. Alors, d'un autre côté, on sait que dans les cantines, les aliments sont de la malbouffe. Et on sait aussi, quand on recherche les informations sur pourquoi l'obésité... Il y a le manque, il y a la question du mode de vie trop sédentaire, mais il y a aussi avant tout la malbouffe. Donc c'est ça que c'est un peu comme quand le gouvernement s'alerte, gouvernement, ça peut être autant le français que le belge ou un autre, hein, n'importe
les
lequel.
Gouvernements, quoi,
les gouvernements vont dire les enfants sont trop sur les écrans après avoir imposé par exemple l'école numérique, enfin toutes des choses qui ne marchent pas. Donc je veux dire en résumé, c'est qu'il y a beaucoup d'injonctions contradictoires. Donc pour les gens, c'est difficile de savoir sur quel pied danser.
J'allais dire le consommateur, donc là, ça revient au côté business, mais la personne qui écoute peut être perdue, qui regarde une publicité, qui est peut-être tabassée, entre guillemets, par, comme tu dis, des injonctions. Elle aura du mal peut-être à comprendre l'utilité du sport, qui n'est peut-être pas un produit, mais un service. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Romain. Et on est dans une société où, pour revenir au mot que j'ai dit tout à l'heure, qui nous invite à être en mode survie. On va avoir des aliments qui sont très, très, très riches en sucre et pauvres en nutriments. On va avoir des possibilités de travail. En tout cas, on devient de plus en plus sédentaire. On demande de plus en plus de performance. Tous ces éléments contribuent concrètement à mettre les gens dans un état de stress, dans un état de stress chronique surtout, puisque le stress ponctuel, ça peut être même bénéfique, mais c'est surtout que ce soit chronique. Et du coup, on a affaire à de l'obésité, plus de diabète, plus de ceci, plus de cela, plus de maladies. Complètement.
Alors super, c'était très intéressant d'avoir votre point de vue là-dessus. Si vous êtes d'accord, je vous propose de passer à la troisième chronique, c'est le match d'idées. Le match d'idées où on a aussi un sujet qu'on va développer et on reste sur l'activité physique et là on va passer peut-être un peu plus sur le côté on va dire physique, émotionnel et la question que je voulais vous poser à tous c'est est-ce qu'on doit souffrir pour progresser ? Est-ce qu'on doit souffrir pour progresser ? On parlait tout à l'heure des Instagrammeurs où on voit souvent cette phrase « no pain, no gain ». Donc, si on ne se met pas à l'effort, ben, on n'aura pas de résultat. Mais est-ce vraiment une règle ou est-ce que c'est parfois une idée exagérée ? Et en fait, est-ce que la progression passe forcément par la douleur ? Est-ce que l'effort extrême et le dépassement permanent sont la solution ? Et est-ce qu'on peut progresser aussi avec intelligence, avec régularité et avec respect du corps ? J'ouvre le débat. Qui veut commencer ? Qui veut intervenir ?
Pour moi, effort, ça ne veut pas dire inconfort. Intensité, ça ne veut pas dire souffrance. Donc, je pense qu'il y a des amalgames qui sont faits. Donc, le sport en souffrance, non. le sport en conscience tout en étant dans l'intensité, tout en faisant des efforts, oui, je dirais oui. Et c'est ça que quand on commence à faire une séance de sport et qu'on sent une douleur ou qu'on sent un inconfort, c'est le seul moyen que notre corps aime pour nous dire, écoute, il y a un truc qui ne va pas là, s'il te plaît, vas-y.
Baisse l'intensité.
Baisse l'intensité. Et souvent, on va avoir, non, mais il faut y aller, tu manques de volonté, c'est pas bon. Non, c'est pas de la souffrance. L'effort, l'intensité, c'est, pour moi, c'est des choses qui sont pas forcément compatibles,
tu dirais.
On peut tout à fait faire du sport intensément, mais tout en se respectant.
Ouais. Et pourtant, j'ai envie de dire, je continue le débat, j'ai envie de dire que parfois, s'il n'y a pas une part de souffrance, entre guillemets, il n'y a pas de résultat. Logan, peut-être
Moi, je suis d'accord dans l'idée que si c'est un athlète qui doit souffrir au niveau de la préparation physique, c'est quand même son métier, donc la souffrance, elle est OK. D'accord. Quoi que ce soit de douleurs articulaires ou quoi que ce soit, on va rester sur des courbatures et un stress quand même du système nerveux. Mais pour les gens qui justement se mettent en activité avec des activités physiques, la seule souffrance qu'ils doivent avoir, ça doit être la discipline. C'est elle qui fait mal.
Ah oui, donc toi, non, tu mets la discipline.
C'est le mot que je voulais prendre.
C'est intéressant, c'est intéressant.
Rejoint,
ouais. Pour moi, c'est vraiment la discipline.
Donc la discipline, pour toi, c'est une souffrance. C'est un effort.
C'est un effort. Quand tu n'as pas envie de te lever le matin pour aller faire un petit jogging ou juste une marche ou quoi que ce soit, elle fait mal. Parce qu'elle te dit quand même, lève-toi, va marcher, va
courir. Sors de tes habitudes, voilà. Sors de ton habitude.
Il faut vraiment essayer de sortir de ses zones de confort pour progresser. Et là, on progresse sans douleur. Et voilà, et même avoir un suivi justement de sa discipline, après c'est plus vraiment une douleur, c'est plutôt une fierté parce qu'on coche les cases et on voit comment on a réussi à être discipliné.
Oui.
Bon, on va pas faire un débat très conflictuel hein, parce que
personne ne veut souffrir.
Mon premier mot c'était la discipline. Non, moi je voulais dire le lien avec les deux questions précédentes. Pour moi, ce qui est important c'est la question du plaisir et du jeu. Mais ce qui peut amener aussi, c'est pas forcément la souffrance, mais la discipline. Moi, je voulais utiliser ce mot. Après, ça peut être aussi l'organisation. Mm-hmm. L'organisation des entraînements. Sans être, on va dire, trop dur envers soi-même, hein, pour rejoindre ce que disait Véro. Et je vais prendre un petit exemple, par exemple, que j'ai fait hier, c'est la douche froide. Pour beaucoup vont dire non mais moi c'est pas mon truc ou Jean-Lin par exemple peut-être.
Mais oui, mais c'est ce que je pensais à ça en fait. Ce qui peut être une souffrance pour certains sera peut-être un défi pour un autre.
Je dirais, mais ça dépend, ça amène aussi l'habitude, j'ai l'impression, hein, même si voilà, chacun, c'est difficile de se mettre des fois dans la peau de quelqu'un d'autre, hein, mais moi, je pense que la douche froide, au début, c'est aussi la question de la respiration, de comment on l'appréhende. En général, au bout de quelques secondes, ça fait vraiment un réel bien. Après, faut le tester ou pas le tester, on va dire. Bon, voilà, j'en arrête là pour
donc
faire
toi, en fait,
courte.
Ouais, mais c'est intéressant ce que tu dis. Ça veut dire que si je connais le bénéfice, je veux dire, de l'activité ou de l'habitude que j'ai, j'accepte peut-être un petit peu plus que ce soit un effort et pas une souffrance, comme tu dis,
mais
Véronique.
Justement, pour moi, quand on accepte, à partir du moment où on choisit de faire une activité, on choisit de se donner les moyens d'une activité, pour moi, il n'y a plus la notion de souffrance parce qu'il n'y a pas de contrainte.
D'accord.
Une personne qui va se lever pour aller courir alors qu'elle n'a pas envie d'aller courir, il va y avoir un degré d'envie.
Si je comprends bien, toi tu le ramènes au côté mental en fait.
Oui,
c'est-à-dire
tout à
que
fait.
Voilà,
tout
ok,
à fait.
D'accord.
Parce que dans la souffrance, en plus, il y a deux aspects. Il y a l'aspect
physique,
la souffrance physique et la perception aussi de la souffrance.
C'est vrai.
Il y a ces deux aspects-là. Donc moi, je parle plutôt sur l'intention et la perception. De ce que l'on va faire. Quelqu'un qui, un athlète qui a envie de gagner ou a envie, bien sûr qu'il va ça.
Oui, comme il le disait Logan, si on prend le sport de haut niveau où les gens vont s'entraîner deux fois par jour parfois, ils font des entraînements bicotidiens, monsieur, madame, tout le monde, si on leur propose de s'entraîner deux fois en leur disant qu'ils auront quand même des résultats et que tout ira bien, ce sera quand même une souffrance, même au-delà d'un effort.
Ça doit être lié à ce qu'on veut.
Oui, oui. C'est... Après, c'est pareil, c'est comment la personne elle va l'interpréter en face.
Ouais.
Si elle
se
dit, même en général, l'excuse qui revient souvent aussi, c'est le manque de temps.
Oui.
Donc, ça coûte rien de faire une activité physique, 15 minutes de sport, un petit circuit abdo, une petite...
Ça coûte rien, ça coûte rien, une ça petite... dépend pour qui.
Une petite marche. Non, mais manger 15 minutes dans une journée, c'est pas grand-chose. On a 24 heures dans une journée.
D'accord. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on dit, qu'il vaut mieux faire... Pour... Là, je parle de gens qui ne font pas d'activité physique. Il vaut mieux faire 10, j'ai même entendu 10, 15, 20 minutes par jour, plutôt que de se dire je vais faire une heure et demie, deux heures. Ça va être plus acceptable par le cerveau, peut-être.
C'est ce qu'on appelle la méthode Kaizen, qui part
très bien, parle-nous-en là. Kaizen, donc ça veut dire
Kaizen,
quoi?
Ça vient du Japon, et c'est une méthode qui explique comment rester dans la discipline. La discipline, c'est pas forcément quelque chose de rigide, mais c'est de faire un petit peu plus, ou de faire un peu au moins chaque jour. On n'est pas obligé de se taper deux heures de séance par semaine et avoir des courbatures et plus savoir marcher. Mais on peut se dire aujourd'hui, je vais faire ne serait-ce que 5 minutes de marche.
Ouais.
Allez, sortir 5 minutes le matin, déjà, ça va être bien pour...
Et en plus, comme tu dis, on va créer l'habitude.
Oui. Et c'est comme ça qu'on crée l'habitude, et c'est comme ça que ça devient une discipline naturelle.
Mmh. D'accord, très bien. Ben, c'est super intéressant ce débat. Il y a quelque chose à rajouter de plus ou...
Non, je suis complètement d'accord avec Véro sur le fait de créer une habitude, justement, petit à petit, en commençant doucement et en augmentant petit à petit.
Donc, si on résume, effort, pas douleur, effort, pas souffrance, discipline, habitude... Si on peut retenir, si on peut donner un conseil aux gens, c'est vraiment d'aller dans ce sens-là. Et là, on parle peut-être des gens surtout qui ne font pas une activité physique ou qui ont envie de se mettre à une activité physique. Très bien. Ben, je vous propose de passer à la boîte à outils. Donc maintenant, on arrive à un moment important de l'émission. L'idée est simple, en fait. On a partagé plusieurs sujets. On a parlé de plusieurs sujets aujourd'hui. On a échangé, on a débattu. Maintenant, on va passer au concret. Chacun d'entre vous va devoir partager un conseil pratique, une erreur à éviter ou une idée simple que les auditeurs pourront appliquer dans leur quotidien. Parce qu'effectivement, l'objectif de cette émission, c'est que chacun reparte avec un petit quelque chose d'utile. Qui veut commencer? Véronique.
Allez, c'est parti. Alors, comme j'ai beaucoup parlé de la régulation du système nerveux,
du mental, etc.
Ouais. La chose la plus importante, 3 à 5 minutes de cohérence cardiaque, ça permet de remettre le corps.
Alors, c'est intéressant parce que, est-ce que tu veux développer un petit peu, parce que c'est une méthode qu'on connaît un peu tous, et peut-être que les invités, les auditeurs qui nous écoutent, cohérence cardiaque, concrètement, c'est quoi? C'est faire quoi?
Alors, on inspire sur 5 temps et par le nez, et on expire par la bouche sur 5 temps.
D'accord.
Et on fait ça entre 3 à 5 minutes, parce qu'il faut minimum 3 minutes pour que le cerveau se disent, comprennent que ça y est, je suis en sécurité, je peux faire, je suis disponible pour faire ce que j'ai à faire.
D'accord. En 3 minutes, si c'est par exemple, si c'est pour la première fois, parce que ça peut être difficile de le faire, de durer 5 minutes si on n'en a jamais fait.
3 minutes, c'est
3
très
minutes,
bien.
C'est déjà bien.
Mais il faut un minimum de 3 minutes.
Et le maximum, ce serait
5 minutes. Autant de fois que nécessaire. Mais généralement, ce sont des tranches de 3 à 5 minutes.
D'accord. Donc on répète, inspiration. Donc on va inspirer sur.
Alors on inspire par le nez sur 5 temps. Et on expire on jusqu'à par 5. La bouche, voilà, sur 5 temps également.
Et est-ce qu'il y a des applications qui permettent de guider?
Oui, il y a des applications, mais j'ai envie de dire, bon, moi,
je
prône le naturel.
Oui, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la discipline, et peut-être que l'application, j'ai envie de dire, tablée sur 3 minutes, ça va, ils seront un peu dans la routine et ils seront obligés de rester. C'est une idée comme ça que je donne.
Alors, moi, je propose 21 respirations en levant le bras. On lève, on inspire.
Ok, donc vraiment avec le corps.
On expire. Okay. On est avec le corps.
Okay.
Et si on fait ça, on compte à peu près 21. Déjà, ça permet de rester connecté à sa respiration, de ne pas partir ailleurs.
Ouais.
Et
de rester focus.
De rester focus.
Très bien. Logan, un conseil, une idée, une erreur à éviter
sur les sujets qu'on a développés. Moi, un petit conseil. Par exemple, pour éviter le coup de barre à 14h après avoir mangé.
Ah oui, ça oui.
Parce
oui.
que celui-là, il est terrible.
Ça, je le prends celui-là, ce
voilà.
conseil.
Ben, c'est juste d'aller marcher 10 petites minutes
ouais.
pour justement en fait, lisser la glycémie et montrer au corps qu'on a fait une petite activité physique et que voilà, on est bien, pas besoin de faire une sieste à 14h.
Ouais. Mmh. Ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce petit coup de barre juste après la digestion. Et est-ce que tu dirais, par exemple Véronique, est-ce que tu dirais qu'il faut... pas beaucoup manger, parce que c'est une question qu'on se pose aussi des fois, on me l'a beaucoup posé, est-ce qu'il faut manger très peu à midi
Non, je pense qu'il faut manger à sa faim, mais par contre, il faut être capable de sentir pour
la
justement
satiété.
La satiété. Ouais. Donc il faut au moins rester au minimum 20 minutes à table.
D'accord, ça c'est difficile aujourd'hui.
20 minutes, voilà, c'est le temps nécessaire. Ouais. Et puis, pareil,
est-ce que tu as une petite astuce là-dessus, par exemple, pour les gens qui mangent très vite, je prends mon exemple, hein, je prends aussi des idées, comment on peut essayer de réguler cette mastication peut-être, est-ce qu'il y a une petite astuce
Alors,
on prend tous tes conseils.
Alors, déjà, ce qu'on peut faire, c'est prendre... une petite fourchette ou une petite cuillère, donc des plus petites parts, et mastiquer, reprendre une autre bouchée uniquement quand celle-ci est
terminée.
Et être à ce que l'on fait. C'est-à-dire que quand on mange, on n'est pas sur son téléphone, on n'est pas en train de regarder la télé. On peut se mettre une petite musique de détente, mais profiter vraiment du moment. On peut même être fermer les yeux, sentir les goûts, les parfums, profiter de ce moment-là pour vraiment goûter et apprécier ce qu'on mange.
Être dans le moment présent.
Exactement.
Comme on dit souvent. Oui.
Exactement.
Très bien, très bien. Une autre idée à partager, un autre conseil
J'en avais plusieurs. Après, voilà, moi j'ai fait mon premier mémoire sur le slow food. C'est un mouvement en opposition au fast food. Mouvement culinaire qui prône le fait de prendre le temps de bien manger. On parle de produits bons, justes, propres. Juste dans le sens payer une rémunération correcte à ceux qui l'ont fait. Bon, ben, Véronique, elle vient d'expliquer c'est quoi le slow food aussi. C'est prendre le temps de table. Et après, c'est aussi toujours plus agréable quand on peut être en face à face. Bien sûr, se regarder, regarder ce qu'on mange aussi. Mm-hmm. Ça aussi, c'est important. Quand on ne regarde pas ce qu'on mange, je pense que c'est la salivation, le fait de saliver qui ne se fait pas. Et du coup, ça a un impact aussi pas terrible pour la santé, apparemment.
Tout à fait. Et éviter de manger quand on est en colère ou quand on n'est pas très bien non plus. Mmh, parce que forcément, notre corps ne va pas tirer les bons nutriments. Mmh. Donc, être plutôt dans une bonne dynamique. Mmh. À la limite, si on n'a pas trop faim, on peut jeûner. C'est pas ce qui va nous tuer, au contraire. Mais être dans de bonnes conditions.
Oui. Alors moi j'ai envie de boucler un peu cette émission en disant qu'est-ce que vous en pensez? Les gens généralement entendent parler des bonnes habitudes, des bons conseils, des choses à faire, mais souvent on se retrouve face à des gens qui font exactement le contraire. Donc là aussi peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent qui se disent oui mais bon je savais peut-être un peu qu'il fallait intégrer le sport comme une habitude, je savais qu'il fallait le faire pendant 10 minutes mais je n'y arrive toujours pas. Est-ce qu'il y a... une petite astuce pour s'aider.
Moi, je veux bien commencer, si ça vous va. C'est justement, des fois, on a l'impression qu'on a des préjugés sur un sport. Bon, je vais prêcher pour ma paroisse actuelle, qui est le tennis, hein, mais on a l'impression que c'est trop technique. Il y a les balles jaunes, hein, les balles qu'on voit, les balles de pro. Mais au fait, il y a d'autres manières de faire avec des balles différentes qui peuvent être les balles oranges, les balles vertes. Les balles vertes, c'est les balles intermédiaires. Même les balles rouges pour les enfants, au fait, qui font que ça va être des balles plus...
Moi, je ne savais
lentement.
Pas ça.
C'est ça, c'est pour ça que j'explique.
Ouais, ouais. Donc, il faut connaître.
En même temps, dimanche, c'est le 8 mars, c'est la journée internationale du droit des femmes. Il y a des activités qui sont proposées à la SPTT pour venir découvrir. Je dis ça parce que des fois, on a envie de quelque chose, on n'ose pas et puis voilà, on n'ose jamais. Et d'accord. Un petit aparté, moi par exemple, je trouve que la danse ça fait beaucoup de bien. On se dit ben non, je suis nul, ben voilà, on y va, on se fait du bien et puis c'est tout. Donc voilà, je relis ça à la notion de plaisir, la petite suggestion.
D'accord, donc toi tu dirais oser et puis poser
plaisir.
Des questions,
ouais.
Peut-être pour mieux connaître une activité
ne pas
avoir des préjugés. C'est un très très bon conseil. Logan ?
Moi je rejoins Robin dans le fait d'aller tester les sports même si on ne les connaît pas forcément. Il y en a, ça va être pour du plaisir, pour avoir la sensation de bouger. D'autres, ça va être juste peut-être pour se défouler après une longue journée de travail. Mm-hmm. Donc, je rejoins complètement Robin sur le fait de quand même prendre du plaisir avant tout. L'activité qu'on va faire.
Donc, peut-être choisir une activité qui nous fasse plaisir. Par exemple, la danse, comme tu disais. Si on aime danser, ben, on ira plus vers une activité qui nous fait bouger, qui nous fait danser, plutôt que d'aller vers une activité difficile.
Ne pas se mettre de barrière.
Mmh. Ne pas se mettre de barrière, oui. Véronique, tu auras le mot de la fin sur cette petite question.
Alors moi, je dirais que ce serait bien de cesser de naviguer contre le vent et de plutôt l'utiliser pour aller plus vite et plus loin.
C'est joliment dit.
Donc, écoutez votre corps, écoutez-vous écoutez vos sensations et n'hésitez pas de parler avec votre coach s'il y a quelque chose que vous avez observé. Communiquez avec votre corps, soyez en communion avec votre corps, avec votre esprit, et vous irez forcément plus loin.
Mais très bien, mais ça c'est vraiment de bons conseils. Est-ce qu'on peut vous joindre, Véronique, par exemple? Tu as donné de très bons conseils sur le côté mental, sur le côté relier le corps à l'esprit. Toi, tu as un Instagram.
Alors, j'ai...
Tu t'attendais pas à cette question.
Donc, j'ai un Instagram, mais mon Instagram, il n'est pas tout à fait... Donc, je dirais que je peux communiquer mes coordonnées téléphoniques.
Je pense que oui, je pense.
Ouais. Alors, je suis joignable au 06 51 79 20 24. Et j'ai un cabinet au 91 rue Château-Payen, dans le 5e.
Très bien. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu ton corps de métier ? Tu accompagnes les gens sur...
Alors, je fais du massage. D'accord. Je fais de la thérapie intégrative, c'est-à-dire il y a de l'hypnose, de la thérapie cognitive en comportementale, des psychos, voilà.
Okay.
Et j'ai des spécialisations pour
la nutrition.
La nutrition. Il y a la naturopathie, exactement. Donc voilà, je suis vraiment... j'utilise moins le terme holistique parce que les gens ne comprennent pas.
C'est ce qui me venait en tête.
Mais c'est
une prise en charge globale.
Globale, exactement.
D'accord. Très bien, je te remercie beaucoup. Logan, on peut te... En tant que coach sportif.
Oui, on peut me contacter. Du coup, je viens d'ouvrir mon pôle sportif, donc c'est à Aubagne. J'ai déjà fait la page Instagram, donc c'est pôlesportif.sls.
Et là, ce sera quoi comme proposition? Qu'est-ce que tu proposes aux gens?
Donc là-bas, ce sera beaucoup basé sur les athlètes. Mais aussi, on a un suivi complet, on va travailler avec des ostéopathes. On a aussi une capsule multisensorielle pour de la relaxation, un reset complet pour le corps.
Okay.
Donc voilà, on se propose ça.
Ok, très bien. J'espère que les gens vont te contacter et que ça va marcher. Je te souhaite du succès.
Merci.
Et Robin, on se retrouve à la prochaine émission. Quelque chose à dire sur un projet, une idée
Voilà, si les auditeurs, auditrices ont des suggestions, des sujets qu'elles veulent aborder, n'hésitez pas.
Vous contactez Radio Mistral.
Voilà.
Donc, on arrive un peu au bout de cette première émission Corps et Cause. Un grand merci donc à Logan, à Véronique pour leur éclairage, leur expérience et leur point de vue sur ces sujets. Vraiment, merci d'être venu. C'est la première. On va s'améliorer petit à petit. On va vous proposer des bonnes choses. Et je pense que ça concerne un peu tout le monde. Merci également à Yacine et à toute l'équipe de Radio Fréquence Mistral de nous accueillir dans leurs locaux et de nous permettre de faire vivre cette émission. Donc aujourd'hui, on aura retenu une chose simple. Perdre du poids durablement demande de la régularité. Pas que des solutions miracles. Le sport, peut être un formidable outil de santé à condition de garder du sens, et progresser ne signifie pas forcément souffrir. Voilà. Donc je remercie encore une fois à tous les invités. Merci à Robin de partager cette émission avec moi et on vous dit à très bientôt.
À bientôt.
À bientôt. Au revoir.